Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer si vous êtes d'accord. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux en cette matinée ensoleillée pour assister donc à cette première table ronde. Je devrais dire plutôt pour participer à cette table ronde puisque le souhait des organisateurs du forum est que la parole circule le plus possible entre la tribune et la salle afin de donner toute sa pertinence à l'ambition de réflexion collective qui préside à ces trois journées. De nouvelles utopies pour la démocratie, telle est donc la question qui nous réunit ce matin, une question très stimulante, enthousiasmante, nécessaire même, car après tout, comment concevoir qu'un projet politique puisse s'élaborer sans une part de rêve, et comment ne pas voir inversement que l'absence d'idéal est une menace pour le lien social ? Penser la démocratie, expliquait tout à l'heure Pierre Rosanvallon dans sa conférence introductive, implique en effet de prendre en compte deux temporalités, le temps du quotidien, mais aussi le temps, disait-il, de l'espèce humaine, ou comment affronter les problèmes du quotidien, et encore plus, comment affronter les défis du futur sans être guidé par des idéaux, ou tout au moins par une part d'utopie. La question est évidente. Une question stimulante, donc, mais une question également périlleuse, car les utopies, c'est une évidence de le rappeler, ont assez mauvaise presse aujourd'hui, en tout cas depuis qu'un certain nombre d'entre elles ont mal tourné, à partir du moment justement où elles ont quitté leur statut d'utopie, c'est-à-dire étymologiquement de non-lieu ou de lieu de nulle part, pour s'incarner ici et maintenant. C'est donc toute la difficulté de la question qui nous est posée. Comment repenser les utopies aujourd'hui à l'aune de cette histoire souvent sombre et dramatique ? Quelle place accorder à l'utopie dans l'élaboration d'un projet politique, entendu que celui-ci se doit, pour être à la fois mobilisateur et crédible, trouver le juste équilibre entre le souhaitable et le possible ? Comment enfin penser l'utopie dans le cadre démocratique ? C'est là, on le sait, une question délicate, dans la mesure où l'ordre utopique, presque par définition, pourrait-on dire, tente à soumettre l'ensemble du corps social à une fin unique et ne laisse guère de place à la contestation. Voilà donc très brièvement quelques-unes des problématiques que nous allons aborder ce matin en compagnie de nos trois invités, que je remercie de leur présence. Tout d'abord, Patrick Vivray, qui est à ma droite. Patrick Vivray, vous êtes conseiller référendaire à la Cour des comptes, philosophe de formation. Vous avez toujours conjugué activité intellectuelle et engagement militant au sein d'abord de la jeunesse étudiante chrétienne dans les années 60, puis de ce qu'il est convenu d'appeler la deuxième gauche, aux côtés de Michel Rocard notamment. Michel Rocard qui, lorsqu'il était Premier ministre à la fin des années 1980, vous avez confié une mission d'évaluation des politiques publiques. Dans les 10 dernières années, vous avez travaillé plus spécifiquement sur la question des indicateurs de richesse. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur ce thème des facteurs de richesse, issu d'une mission que vous avez confiée Guy Asquette, à l'époque secrétaire d'État à l'économie solidaire du gouvernement Jospin, un rapport qui a été publié sous forme de livre intitulé « Reconsidérer la richesse » paru aux éditions de l'Aube en 2002. Vous êtes également un observateur exigeant de notre monde contemporain, contempteur acharné du modèle de croissance que vous qualifiez de toxicomane, et vous avez développé ces idées notamment dans un livre qui s'intitule « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» publié chez Fayard en 2005. À ma gauche, Alain Caillé, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Paris-10-Nanterre. Vous êtes surtout connu comme la figure de proue d'un courant critique au sein des sciences sociales, le MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, que vous avez fondé en 1981 et dont vous animez la revue dont le dernier numéro est consacré à un thème brûlant, l'université en crise, mort ou résurrection. Il est en vente depuis quelques jours. Le MOS, évidemment, l'acronyme n'a pas été choisi par hasard. C'est une façon pour vous de vous inscrire dans la filiation du sociologue et ethnologue Marcel MOS, mort en 1950, neveu et disciple critique d'Émile Durkheim. En vous référant à sa théorie sur le don et sur le contre-don, vous avez donc élaboré depuis une trentaine d'années une critique de ce qu'on appelle le paradigme utilitariste, aussi bien à l'égard de la psychologie que de la microéconomie ou de la sociologie, sans nier évidemment le point des intérêts. Vous vous attachez à montrer que l'action ne se réduit pas à la quête par chacun de ses seuls intérêts égoïstes, mais que de notions telles que la sympathie, l'altruisme et la solidarité entrent également en compte. Enfin, à ma gauche, et c'est à vous que je donnerai la parole en premier, Nathalie Dompnier, vous êtes professeure à l'école, à l'université Louis Lumière de Lyon 2, c'est ça ? Lumière, à l'université Lumière Lyon 2. Vous êtes, vos travaux se déploient, disons, dans trois directions. Tout d'abord, l'étude des comportements électoraux, en particulier les pratiques déviantes des électeurs. C'est à cette question que vous aviez consacré votre thèse de doctorat, soutenue ici même à l'IEP de Grenoble en 2002. Vos recherches portent également sur les usages politiques de la chanson et tout particulièrement sur les hymnes politiques, essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois d'ailleurs que c'est à cette question que vous avez consacré votre premier ouvrage, paru chez Nathan en 1996. Troisième domaine d'étude, enfin le plus récent, l'économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises. Toute une réflexion en fait sur les normes sociales et environnementales, leur importance dans les stratégies des entreprises qui souhaitent être reconnues comme responsables ou citoyennes, mais aussi sur la place de ces questions dans l'enseignement des sciences économiques et sociales et dans les discours des partis politiques européens. Je vous cède la parole en premier donc pour tenter une première réponse à cette question sur les nouvelles utopies pour la démocratie.
Merci bien. Je ne voudrais pas commencer sans ouvrir une parenthèse. Alors, c'est un petit peu gênant de commencer de cette manière-là, mais ouvrir une parenthèse sur la situation dans les universités françaises actuellement, sans exprimer une certaine colère, une certaine tristesse, un certain malaise aussi, malaise à être ici, à évoquer la démocratie, la manière dont on peut la réinventer, la repenser, la reformuler, trouver de nouvelles utopies pour cette démocratie, alors même que dans les universités, bien finalement, on est en train de saper les quelques éléments de démocratie, de collégialité, en tout cas, qui pouvaient exister. Donc, voilà, un premier mot peut-être pour situer cette discussion. On ne pensait pas à l'époque, en tout cas je ne pensais pas à l'époque où j'avais accepté de participer à ces débats, que l'université en serait là et elle est bien malade. J'en viens maintenant au sujet tout de même, puisque nous sommes réunis ici pour cela. Donc je reprendrai peut-être pour commencer quelques éléments de réflexion sur la question de l'utopie. C'est en effet ce lieu qui est nulle part ou ce lieu qui n'existe pas. Et donc questionner les utopies pour la démocratie, c'est questionner ce vers quoi elles devraient tendre, si on est dans une perspective normative ou prescriptive, ce vers quoi elles pourraient tendre à l'avenir. C'est questionner la reformulation, la réactualisation de l'idéal démocratique. C'est aussi partir de l'idée selon laquelle la démocratie n'est pas figée, ne peut pas être figée d'une certaine manière et demande en effet sans cesse à être réinventée, ce à quoi nous invite ce forum. Questionner aussi ces utopies, c'est sans doute partir aussi d'un certain nombre d'insatisfactions, d'attentes non satisfaites à l'égard de la démocratie, car finalement, si toutes ces attentes étaient satisfaites, eh bien, les utopies ne s'avéreraient pas nécessaires. Partir d'un certain nombre de déceptions par rapport à ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Alors, ces attentes, ces déceptions, ces insatisfactions, elles peuvent être formulées en des termes assez différents et je relèverai deux modes finalement de formulation de ces déceptions. On a un discours d'une part sur l'insuffisance de la démocratie ou le manque de démocratie, et là on est dans une perspective purement quantitative où on nous dit il faudrait plus de démocratie. C'est par exemple ce qu'on entend à travers toute la thématique du déficit démocratique parfois développé, notamment à propos de l'Union européenne. Et donc, dans ce cadre-là, la question n'est pas celle des formes que doit prendre la démocratie, hein, mais bien une question quantitative, on aurait un continuum sur lequel on pourrait placer un curseur et qui nous permettrait de dire qu'on a plus ou moins de démocratie. Et puis on a une deuxième perspective qui est un questionnement davantage sur les formes et sur les modalités de la démocratie. Je renvoie ici au titre d'un ouvrage que vous avez dirigé, « Quelle démocratie voulons-nous ? » Donc ici, la question n'est plus de savoir s'il faut plus de démocratie, mais de savoir quelle forme de démocratie nous attendons. D'autres formes de participation, d'autres formes d'implication, d'autres formes de procédures de décision, d'autres conceptions de la citoyenneté, etc. Et il me semble que, par ailleurs, pour prendre l'ampleur de ces attentes et de ces exigences à l'égard de la démocratie, on a tout intérêt à essayer de cerner les représentations qui entourent celle-ci. Et ici, on va faire un petit détour, je vous propose un petit détour par les données d'une enquête quantitative, qui sont les données des enquêtes valeurs, d'ailleurs dont Le Monde récemment rendait brièvement compte dans une double page. Ces enquêtes valeurs sont donc des enquêtes sociologiques réalisées tous les 9 ans, et dont un pan porte sur le rapport à la politique. Et je voudrais très rapidement vous livrer quelques chiffres, quelques données de la dernière vague, celle de 2008, qui justement révèlent un certain nombre de paradoxes dans le rapport des Français à la démocratie. Pour l'instant, je n'ai que les données françaises. Quand on les interroge sur la démocratie, alors, je passe ici toutes les questions d'ordre technique, méthodologique, hein, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur ces techniques d'enquête, mais elles nous apprennent quand même beaucoup aussi. 9 Français sur 10 nous considèrent qu'un système démocratique est une bonne ou une très bonne façon de gouverner le pays. 9 Français sur 10 sont d'accord avec l'idée que la démocratie peut poser des problèmes, mais qu'elle est quand même mieux que n'importe quelle autre forme de régime ou de gouvernement. Donc on a une adhésion très massive à la démocratie, un fort attachement à celle-ci, des attentes extrêmement fortes et du coup des insatisfactions d'autant plus fortes. Et ces insatisfactions, on les trouve aussi énoncées, formulées dans ces enquêtes valeurs. Et le constat est assez sévère puisque 3/4 des personnes interrogées pensent que les démocraties ont du mal à prendre des décisions. C'est énorme par rapport à ce qu'on vient de dire de l'attachement à la démocratie. La moitié pense qu'en démocratie, le système économique fonctionne mal. La moitié pense que les démocraties ne parviennent pas à maintenir l'ordre. Et ces critiques, ces réticences permettent sans doute de mieux comprendre aussi eh bien que plus d'un quart des personnes interrogées estiment souhaitable d'avoir au gouvernement, ça me semble très important, un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. C'est-à-dire que parmi ceux qui nous répondent qu'ils sont très attachés à la démocratie, une partie, pas la plus importante, mais une partie nous dit « ce serait bien d'avoir un homme fort qui n'a pas à se préoccuper de tout ça ». Et une partie encore plus importante, la moitié des personnes interrogées, considèrent comme une bonne chose le gouvernement des experts, c'est-à-dire que ce ne soit pas des politiques, mais des experts qui prennent des décisions. Là aussi, on mesure le paradoxe, l'ampleur de cet écart, de cette incompréhension sans doute, hein, entre eh bien, d'une part cet attachement à la démocratie et d'autre part l'affirmation sur laquelle un gouvernement des experts est une bonne chose ou une très bonne chose. Donc voilà, c'est quelques données dont je voulais vous faire part, parce qu'elles me paraissent très parlantes sur justement ces tensions, ces paradoxes autour de la démocratie et donc la nécessité sans doute de réinventer quelque chose et de formuler de nouvelles utopies pour la démocratie. Maintenant, on peut partir du constat que depuis une vingtaine d'années, on a vu se développer tout un ensemble d'expériences, d'expérimentations, d'innovations, justement destinées à repenser et à mettre en place de nouveaux dispositifs dans le cadre des démocraties modernes. Ces dispositifs on peut les analyser, on peut les observer dans un premier temps en disant, bien voilà, ils ont tous en commun un certain nombre d'objectifs pour la démocratie. En même temps, et ce sera le deuxième point que je développerai rapidement, quand on dit objectif, on ne dit pas utopie. Et il me semble que l'objectif existe bien, l'utopie, encore une fois, est quelque chose vers quoi on peut tendre. Il me semble qu'on a intérêt justement à penser les nouveaux dispositifs, ces expérimentations, ces innovations, en les replaçant dans une utopie. Parce que ces nouveaux dispositifs peuvent prendre place précisément dans des utopies de nature très différente, et c'est ce que je voudrais ici expliquer. Donc rapidement, il me semble que ce qui fait le lien entre un certain nombre de nouveaux dispositifs mis en œuvre au cours des dernières décennies, le vote électronique, le vote informatique, les dispositifs de démocratie participative, délibérative, les sondages délibératifs, les référendums consultatifs, les consultations populaires, mais aussi le développement dans les nouveaux mouvements sociaux de formes de participation originale, le point commun dans toutes ces nouvelles pratiques et tous ces nouveaux dispositifs me semble être, mais je ne suis pas tout à fait satisfaite de la formulation, une quête d'immédiateté. Une quête d'immédiateté à la fois temporelle, une quête d'instantanéité, une démocratie qui se fasse tout de suite. Alors, typiquement, ici, on a le symbole du vote électronique, hein, qui est en fin de scrutin. Hop, on a juste à fermer le scrutin, appuyer sur le bouton, et on obtient les résultats du scrutin, éventuellement à l'échelle de la circonscription. Quête d'instantanéité, donc. Quête, d'autre part, avec cette recherche d'immédiateté, d'une démocratie qui se passe d'intermédiaire, d'intermédiaire, donc d'une démocratie comme forme d'expression immédiate. On voit bien ici encore hein, les formes de démocratie participative, alors qui bien souvent viennent plutôt non pas remettre en cause la démocratie représentative, mais l'amender à la marge. Donc immédiateté aussi dans ce sens-là, hein, mettre entre parenthèses ou mettre de côté des intermédiaires qui font vivre traditionnellement la démocratie représentative. Et puis quête d'une immédiateté aussi sans doute spatiale, c'est-à-dire l'absence d'intermédiaires dans l'espace, la quête d'une démocratie qui se fasse non seulement tout de suite, mais ici. Et ce sont bien toutes les expériences de démocratie locale qui ont été évoquées tout à l'heure par Pierre Rosanvallon. C'est aussi à travers les consultations les consultations électroniques, à travers les dispositifs qu'on appelle de démocratie électronique d'ailleurs, l'idée de réduire les espaces, de réduire les distances, de pouvoir participer tous en même temps et comme si on se trouvait en un même lieu. Donc, on peut voir ce point commun dans tout un ensemble de dispositifs, cette quête d'immédiateté, cette volonté de réduire, de rétrécir les espaces, le temps et les procédures. Ça me semble caractériser tout un ensemble de nouveaux dispositifs. En même temps, cela en soi n'est pas une utopie. C'est un objectif, me semble-t-il. Et cette volonté d'immédiateté, elle peut s'inscrire dans des utopies très différentes. J'en relèverai seulement deux ici, mais on peut en trouver beaucoup d'autres. On a une première utopie qui est une utopie, je dirais, efficace rationnelle, où l'immédiateté doit servir l'efficacité. L'efficacité du gouvernement, l'efficacité politique, et on se saisit ici d'un certain nombre de dispositifs de démocratie locale, de démocratie participative, de démocratie électronique, de démocratie associative également, comme un moyen de répondre de la manière la plus efficace possible à un certain nombre de problèmes donnés. Or, ici, il ne me semble pas qu'on ait affaire à une utopie démocratique. Parce que, à côté du recours à ces dispositifs qu'on présente bien souvent comme des dispositifs proprement démocratiques, cette utopie efficace, rationnelle, amène aussi, eh bien, au gouvernement des experts, par exemple, amène aussi, eh bien, à revendiquer un homme fort qui sera effectivement efficace au sens où on aura rapidement, immédiatement, une mesure sur un sujet donné. Donc, ce qui me semble important, très important de souligner ici, c'est que ces dispositifs de démocratie participative, délibérative, associative, etc., ces dispositifs-là ne sont pas nécessairement démocratiques et que insérés dans un autre projet de société, dans une utopie, encore une fois, efficace, rationnelle, eh bien, ce sont des formes qui peuvent même être plutôt en contradiction avec l'idéal démocratique. Et puis, on a en revanche, je dirais d'un autre côté, mais encore une fois, on pourra en trouver d'autres, une utopie de la participation et de l'implication politique, où là, en effet, ces dispositifs sont mis au service non pas de l'efficacité, mais au service, eh bien, d'une participation du plus grand nombre, d'une participation et d'une implication des citoyens considérés effectivement comme citoyens égaux et non pas en fonction de leur statut, de leur qualité, comme ça peut être le cas dans le gouvernement des experts, par exemple. Donc, ici, tous ces dispositifs peuvent être en effet tendus vers cette utopie de la participation, de l'implication citoyenne, mais utopie qui est finalement ancienne, et on ne fait que renouveler un certain nombre de formes, de dispositifs qui permettent de se rapprocher de cette utopie. Et en même temps, cette utopie, elle rencontre, cette utopie de l'implication et de la participation, bien elle rencontre un certain nombre de résistances, et ces résistances, on les voit très bien à travers les... On les lit à travers les quelques données que je vous donnais en introduction. Ces résistances, elles touchent d'abord la question de la compétence, puisque dans cet idéal de la participation, de l'implication de tous, eh bien, la question se pose immédiatement de savoir si tous sont compétents à participer à la prise de décision. Et une autre résistance, me semble-t-il, touche au problème de l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude quant à la situation d'une société, quant à la possibilité pour un collectif de répondre efficacement, et là la question d'efficacité se repose, un certain nombre de problèmes, d'impératifs, d'injonctions. Donc voilà, je termine ainsi, mais en tout cas ce qui me semblait très important dans le cadre de cette table ronde, c'est bien de souligner que les utopies pour la démocratie ne se trouvent pas dans les instruments, dans les outils, dans les dispositifs, mais que cela... et bien s'insère dans des utopies qui peuvent être sensiblement différentes et parfois contradictoires. Je vous remercie.
Bien. Merci pour cette première intervention, Nathalie Dompnier. Je me tourne vers Alain Caillé maintenant. Même si elle n'est pas explicitement au cœur de vos travaux, la réflexion sur les idéaux est quand même très présente dans les recherches que vous menez au sein du MOS depuis une trentaine d'années. Elle est en tout cas, disons, le contrepoint de votre travail critique sur l'utilitarisme. Vous avez d'ailleurs choisi de donner un recueil de vos articles publiés en 2005, le sous-titre « Contre le fatalisme ». Alors justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est pour conjurer ce spectre du fatalisme qu'il est selon vous nécessaire d'élaborer de nouvelles utopies pour la démocratie?
Pardon. Merci beaucoup pour la question. Je comptais alourdir mon exposé de deux séries de considérations préliminaires, mais je vais en rajouter une troisième après ce qu'a dit ma voisine, qui est tout à fait pertinent à propos de la situation de l'université. Vous avez très justement dit que la démocratie est menacée à l'université. On pourrait ajouter qu'elle est menacée également à l'hôpital, elle est menacée dans la justice, elle est menacée un peu partout. Mais par le toujours avec le même schéma, avec ce désir de conférer tout le pouvoir à un homme fort, décisionnaire, capable de rompre, de passer par-dessus tout le monde pour prendre des décisions. Mais dans le cas de l'université, il y a un problème supplémentaire, c'est que ce n'est pas seulement la démocratie à l'université qui est menacée, c'est l'université elle-même. L'université elle-même qui se vide littéralement, et ça va encore s'accentuer, s'accélérer à la rentrée prochaine, au profit de tout le système des formations technico-professionnelles, légitimes par ailleurs. Mais voyez bien ce qui se profile avec la disparition de l'université, faute de combattants, puisque les étudiants vont dans les filières qui sélectionnent et qui assurent au moins imaginairement un débouché professionnel. Avec l'université, ce qui est menacé, c'est bien évidemment tout le trésor de notre culture accumulée, tout le trésor d'une tradition culturelle, humaniste et démocratique, et l'ensemble des capacités de réflexion, de réflexivité critique. Voilà. Et dernier point, c'est un peu l'objet du numéro du MOS qui vous a été présenté, alors vu du MOS qui vous a été présenté, il me semble que nous ne pourrons nous tirer de ce très très mauvais pas que si la communauté universitaire elle-même réussit à se reconstituer à nouveau, ce qu'elle n'a jamais su faire depuis une éternité, à se reconstituer à nouveau en communauté démocratique, capable d'énoncer ses propres souhaits pour une réforme véritable de l'université. C'est les pistes qu'on essaie d'explorer dans ce numéro-là. Deux autres séries de considérations préliminaires. Il faut que je développe un tout petit peu la présentation qui a pourtant été très très bien faite par Thomas Vider du travail de la revue du MOS. Il l'a très bien dit, le nom signifie à la fois mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, traduisez pour l'instant mouvement anti-économiciste en sciences sociales, et puis un hommage à Marcel Mauss, dont je vais dire un mot tout à l'heure. D'abord, pourquoi mouvement anti-économiciste, anti-utilitariste ? Le point de départ de la revue, qui a été créée il y a une trentaine d'années, c'était une surprise face à l'hégémonie dans le monde de la pensée, de la philosophie politique et des sciences sociales, l'hégémonie de ce qu'on peut appeler le modèle économique, qui laissait à croire que nous sommes tous, et nous ne sommes que des homo economicus, que des individus séparés, calculateurs, rationnels, accumulateurs, maximisateurs, etc. Bien, oui, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas toute la vérité, comme vous l'avez rappelé. Et il fallait lutter contre cette idée devenue dominante dans le monde de la pensée avant même de devenir dominante dans le monde de la réalité sociale. Puisque la globalisation financière s'est développée dans le sillage de cette mutation intellectuelle. Question complémentaire, si nous nous opposons à cette représentation de l'être humain, qu'est-ce que nous avons à y opposer ? L'hommage à Marcel Mauss, qui est rendu par le titre, est l'hommage principalement à l'auteur en 1924 d'un texte fondamental qui s'appelle « L'essai sur le don ». Je résume en deux, trois idées élémentaire, que découvre Marcel Mauss, ethnologue, qui rassemble toute la littérature ethnologique de son temps ? Eh bien, que les sociétés, que j'appellerais pour ma part les sociétés premières, ne reposent pas sur l'achat et la vente, sur le désir d'accumulation économique, sur le contrat, sur le donnant-donnant, mais sur cette obligation très paradoxale que Marcel Mauss appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. En résumé, l'obligation qui est faite aux êtres humains, c'est de se montrer généreux. Je dis bien se montrer, de rivaliser de générosité, ne serait-ce que pour écraser l'autre de sa générosité, de se faire reconnaître par tous les membres de la société comme de généreux donateurs. Il y a une dimension de conflictualité, de lutte, mais c'est une lutte pour donner, pour se montrer généreux. Voilà le schéma théorique fondamental dont, à partir duquel nous avons essayé d'élaborer dans le cadre de la revue du MOS. Cette obligation de donner qui se manifeste dans les sociétés premières, elle va après être travaillée par tous les grands systèmes religieux, par tous les grands systèmes de moralité philosophique. Toutes les grandes religions vont travailler à partir de ce fond premier en essayant d'universaliser, de radicaliser cette obligation de donner. La modernité démocratique, c'est là où je voulais en venir. Que fait la modernité démocratique ? Bien, au fond, elle fait le pari qu'il est possible de rassembler des sujets humains divers, en conflit les uns avec les autres, dans une même obligation de donner, non plus au Dieu, non plus à une divinité abstraite, mais à la démocratie elle-même, à l'esprit de la démocratie. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, je crois, c'est celle-là. Comment faire revivre cette aspiration à donner à la démocratie et à en recevoir, bien évidemment, en échange ? Première considération très générale. Deuxième considération sur l'intitulé même de notre table ronde, les utopies démocratiques. Je dois dire que cet intitulé me met mal à l'aise. J'ai tendance à penser que cette idée d'une utopie démocratique est une contradiction dans les termes. C'est quasiment un oxymore. Il me semble que les utopies, par nature, sont antidémocratiques. sont antidémocratiques puisqu'elles essayent d'ordonner le rapport social à partir d'une idée centrale régulatrice qui permettrait d'assigner à chaque être humain, à chaque être social, sa place, sa fonction, son rôle dans la société, dans un gigantesque système de calcul de ce que chacun doit à chacun et qui serait arbitré par une espèce de monarque central, de sujet omniscient au centre de la société. Or, la démocratie, au contraire, comme l'ont très bien montré notamment Claude Lefort, que nous entendrons ce soir, ou Jacques Rancière, la démocratie se fonde sur une dimension d'indétermination du rapport social, une dimension d'indétermination qui fait que, justement, on ne peut pas assigner une place fixe et indubitable, univoque à chacun des sujets sociaux. Pour le dire en un mot, mais je n'aurai pas le temps de développer, les utopies sont au pire totalitaires, on en a vu les résultats, et au mieux utilitaristes, c'est-à-dire adossées au fantasme, que vous avez très bien rappelé, d'un gouvernement par les experts qui saurait mieux que chacun ce que chacun doit faire. La démocratie, c'est le contraire de cela. Voilà les considérations préliminaires que je voulais énoncer. Maintenant, il me semble qu'il nous faut nous interroger sur deux points. Alors, j'ai dit qu'il fallait refuser l'idée des utopies démocratiques, bien évidemment non pas pour se désespérer, mais pour remplacer l'attente d'utopie démocratique par l'espoir, par l'espérance démocratique. La question véritable, c'est celle de savoir comment refonder l'espérance démocratique et la foi en la démocratie. Pour essayer de répondre à cette question-là, comment refonder l'espérance démocratique, il faut nous demander, ça sera mon premier point, où en est aujourd'hui, justement, cette espérance démocratique en France et dans le monde. Et deuxième point, que faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire pour tenter de renouveler, de revivifier cette espérance démocratique ? Bon, bien évidemment, ça fait beaucoup de questions à la fois, je ne pourrais donner que des têtes de chapitre. Sur la question question de savoir où nous en sommes dans l'espérance démocratique, est-ce que l'espoir démocratique est encore vivace chez nous et au niveau planétaire ? Il me semble qu'on peut distinguer quatre grandes séries de réponses, si on examine le champ philosophique de la philosophie politique. Des réponses optimistes qui avaient le vent en poupe jusqu'à il y a en tout cas 6 mois et puis un petit peu au-delà. Les réponses optimistes, celles qui, notamment depuis la chute du mur de Berlin, qui disent oui, il y a eu des problèmes au XXe siècle, mais c'est fini, les totalitarismes sont derrière nous. Les régimes démocratiques vont gagner partout dans le monde et aller de pair avec une prospérité croissante. Réponse pessimiste, celle qui, au contraire, par exemple Marcel Gauchet sera assez représentative de cette analyse, qui pense que la démocratie a dépassé un certain stade, est en train d'involuer, que la démocratie se retourne contre elle-même, que trop de démocratie, en quelque sorte, tue la démocratie. Il y a aussi, bien sûr, les réponses nihilistes classiques, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, celles qui pensent que la démocratie n'a jamais existé, ne pourra jamais exister, que c'est une pure illusion, un pur fantasme. Et puis, des réponses que j'appellerais des réponses hybrides, celles qui pensent que, oui, la démocratie représentative est en déclin, une série de données que vous avez rappelées le montre bien, mais que ce que l'on perd d'un côté, du côté du système de la démocratie partidaire, représentative, on peut le regagner par un surcroît de démocratie participative, un surcroît d'immédiateté. Bien. Il me semble que chacune de ces quatre réponses, qui ont bien sûr leurs mérites ou leurs inconvénients, ne rendent pas compte de quelque chose sur quoi je voudrais essayer d'attirer l'attention, mais qui n'est pas facile à formuler. Ça ne nous permet pas de comprendre ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années. Et je voudrais revenir en arrière dans les années 70-80. Qu'est-ce que, dans les années de ma jeunesse, voilà. Eh bien, quelles étaient les espérances à l'époque ? Je crois que la certitude partagée par tout le monde dans les années 70-80, c'était que, en effet, cet idéal démocratique allait gagner la planète entière, allait s'universaliser, que la prospérité allait arriver pour tous, les protections sociales, les normes d'équilibre, d'équité entre les sexes, entre les ethnies, entre les religions, les communautés civilisationnelles, etc. Or, manifestement, nous avons totalement bifurqué de cette trajectoire-là. Cette espérance, qui semblait presque évidente, d'une universalisation de la démocratie, est maintenant très largement derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses, bien évidemment. Ce qui s'est passé, première chose, la croissance n'était plus au rendez-vous, en tout cas pour la France, la croissance d'après-guerre à 4-5%, ça pose quelques problèmes, ça rend les choses plus difficiles. La deuxième chose qui est survenue, tout le monde le sait, c'est bien sûr l'émergence de la globalisation, du néolibéralisme, l'imposition d'une norme du tout économique, du tout marché sur l'ensemble des activités sociales. Ça, c'est évident, tout le monde le sait, c'est vrai, mais il me semble que si nous en restions à ce constat des ravages provoqués par l'ultralibéralisme, nous n'irions peut-être pas tout à fait assez profond. Je pense que cette montre, cette exacerbation de l'économisme, cette exacerbation des marchés, notamment des marchés financiers, doit être resituée dans un cadre plus général, qui n'est pas facile à présenter en quelques mots, mais je vais tenter de le faire. Mon hypothèse, c'est qu'à partir des années 70-80, se met en place dans le monde occidental un régime politique et symbolique qui est au fond symétrique, le symétrique des totalitarismes du XXe siècle. C'est-à-dire qui est à la fois leur inversion radicale et leur continuation par d'autres moyens. On pourrait parler, un auteur américain que j'ai découvert très récemment parle de ce qu'il appelle un totalitarisme inversé. C'est une bonne expression. Pour ma part, je parle de parcellitarisme. J'essaie d'expliquer en deux mots. Là où les régimes totalitaires voulaient sacrifier les intérêts individuels sur l'autel des intérêts collectifs, ne voulaient connaître que des totalités sociales, le parti, le prolétariat, la classe sociale, le peuple, la race allemande, etc. Et chacun devait se fondre dans le grand tout. Il y avait une obligation de se fondre dans la totalité. Nous sommes soumis à une injonction rigoureusement opposée, à l'interdiction de faire du commun. Voilà le point fondamental. L'interdiction de faire du commun, que ce soit dans le domaine des idées, tout doit se fragmenter en parcelles d'idées, que ce soit dans le domaine des institutions sociales, dans le domaine des communautés sociales, tout doit être, et même dans le domaine de notre identité personnelle, qui doit être indéfiniment parcellisable, monnayable, jouable sur Internet, etc. Bien. Pourquoi je ne développe pas cette hypothèse qui mériterait évidemment beaucoup de commentaires? Mais pourquoi est-ce que je l'évoque? Bien, parce que je crois que notre problème principal, si nous voulons réinventer la démocratie, c'est de sortir de ce qui est une perversion de la démocratie que nous vivons depuis 20 ou 30 ans, et qui est une perversion de la démocratie symétrique aux perversions totalitaires d'hier. Et cette perversion est particulièrement difficile à détecter, puisqu'elle se développe précisément au nom de l'idéal démocratique, au nom de l'idéal de l'intensification de la démocratie. Or, ce régime parcellitaire, s'il existe, comme je le crois, il fait que, par tout un ensemble de mécanismes à peine perceptibles, nous ne pouvons plus agir ensemble, nous ne pouvons plus espérer ensemble, puisque nous sommes sans cesse voués à des activités parcellaires qui ne peuvent pas s'agréger les unes aux autres. Voilà la considération que je voulais expliquer en quelques mots avant de venir à la question du que faire. Rapidement me dit notre animateur. Ben, très rapidement, parce que ça méritait, d'abord j'en sais rien, et puis ça mériterait beaucoup de développement, et puis on y reviendra. Mais quand même deux, trois idées qui me permettent de revenir à l'intitulé de notre réunion, les utopies démocratiques. Ben, j'imagine que sous cet intitulé, les organisateurs de la table ronde ont pensé à tout un ensemble d'expériences, de tentatives qui se déploient depuis quelques années, soit sous le nom d'économie solidaire, par exemple, ou de microcrédit, de commerce équitable, soit de recherche, et Patrick Vivret, bien sûr, puisqu'il est très actif dedans, va en parler, de recherche de nouveaux indicateurs de richesse, de redéfinition des normes de richesse, de monnaie, développement de monnaie plurielle, soit des utopies de développement durable, voire pour des auteurs plus radicaux, dont certains de nos amis au sein de la revue du Mousse, soit une aspiration à la décroissance, rompre avec l'idéal de croissance. Bien, tout un ensemble de thèmes qui sont importants à discuter, sur lesquels on peut avoir des opinions variées. Mais ma conviction, pour ma part, et c'est cela que je voudrais essayer d'exprimer ici, c'est qu'aucune de ces tentatives utopiques, entre guillemets, aucune de ces espérances démocratiques n'est susceptible d'avoir de véritable effectivité si elles ne sont pas portées par des hommes et des femmes qui y croient profondément et qui les réinscrivent dans le cadre d'une espérance démocratique générale, universalisable, partagée. Notre problème, vous le comprenez bien, c'est de réussir à nouveau à faire du commun sur la base de ce régime parcellitaire que je décrivais en quelques mots. Quels sont les idéaux qui nous permettraient d'œuvrer à l'échelle universelle en ayant le sentiment que dans différents pays, dans différentes cultures, chacun œuvre, va dans la même direction? Quelles sont les valeurs universalisables minimales qui pourraient nous réunir? Bien, j'en vois trois, que je vais simplement nommer, trois qui en fait se résument à une quatrième valeur qui a une traduction concrète sur laquelle je terminerai dans une minute. Trois valeurs fondamentales, bon, c'est idiot de les nommer comme ça il faudra développer, on y reviendra peut-être dans la discussion. Premier commandement, en quelque sorte. Premier commandement, valoriser la démocratie pour elle-même, ou encore traiter la démocratie comme une fin je paraphrase une phrase de Kant, traiter la démocratie comme une fin et pas seulement comme un moyen. Premier précepte, traiter la démocratie, désirer la démocratie pour elle-même, la traiter comme une fin et pas seulement comme un moyen. Pour cela, corréla, deuxième principe, lutter contre toutes les formes de corruption. Et d'ailleurs, les formes de corruption sont toujours, justement, des manières de renoncer à traiter la démocratie comme une fin et pas seulement comme un moyen. Et troisième valeur fondamentale, éviter toute dégradation, toute irréversibilité, toute dégradation irréversible de la nature et aussi des cultures. C'est le point fondamental. On part du développement durable par rapport à la nature. Il nous faut penser un développement durable par rapport aux cultures dont nous sommes les héritiers. Ces trois grandes idées, traiter la démocratie comme une fin, pas seulement comme un moyen, lutter contre la corruption, éviter toute dégradation irréversible de la nature et des cultures, je parle des cultures au pluriel, toutes ces trois grandes idées se résument à un mot d'ordre fondamental qui était le précepte politique et éthique fondamental des Grecs, autrement dit des premiers démocrates, c'est la lutte contre la démesure, la lutte contre ce que les Grecs appelaient l'hubris et que Cornelius Castoriadis traduit très bien par le terme d'illimitation. Il nous faut lutter contre toutes les formes d'illimitation. Ce sont ces formes d'illimitation qui ont perverti la démocratie, que ce soit par le biais de l'illimitation du collectif, dans le cas des régimes totalitaires d'hier, ou par le biais de l'illimitation de l'individu, dans le cadre du parcellitarisme contemporain. Traduction concrète de cette lutte contre l'illimitation, eh bien, elle se résume à deux mots d'ordre, que je crois partager avec Patrick Vivret. Il nous faut affirmer, premièrement, de manière inconditionnelle, qu'aucun être humain ne peut doit être admis à tomber en dessous d'un certain minimum de ressources qui lui permettent de vivre. Voilà le premier mot d'ordre, un revenu minimum, le principe inconditionnel d'un revenu minimum, et symétriquement, il faut affirmer qu'il y a un niveau de richesse que personne n'a le droit de dépasser, un niveau de richesse qui peut être très élevé, on peut en discuter, mais il est fondamental d'affirmer ce principe d'une richesse maximale, car quiconque dépasse ce niveau de richesse maximale représente un danger pour la démocratie. Merci bien.
Merci beaucoup, Alain Caillet. Ne pas se contenter de cette exigence critique, mais comme vous l'avez fait, l'articuler à des propositions alternatives, telle est également votre démarche, Patrick Vivret. Je citerai à cet égard une phrase d'une tribune que vous avez publiée dans Le Monde le 30 mai 2007. Si l'on ne propose pas de solution positive, notre société sera comme un toxicomane qui préférera garder sa toxicomanie, quitte à en crever, plutôt que d'accepter la cure. C'est pourquoi, ajoutiez-vous, il est essentiel de travailler autant sur l'espérance et le désir que sur la lucidité et la perte.
Oui, ben c'est exactement la continuité de ce que vient de dire Alain. Si nous considérons qu'au cœur des multiples facettes de la crise écologique, économique, financière, sociale, mais aussi géopolitique et culturelle que nous connaissons, il y a le phénomène de la démesure. Si donc dans les réponses à construire, la question de l'acceptation des limites est un enjeu absolument stratégique, il n'y a d'acceptation des limites que pour autant que ces limites sont accompagnées d'une progression dans l'ordre de l'être. Sinon, on se trouve effectivement dans la situation que j'évoquais dans ce texte, où on propose une cure de sevrage à un toxicomane. S'il n'a pas de perspective de mieux-être à la sortie, il préfère encore sa toxicomanie. Et je crois qu'on est là au cœur des enjeux qui sont tout à la fois théoriques et pratiques, et donc où la théorie se fait transformatrice, parce que quand on prend les questions qui sont devant nous et qui sont d'abord, il faut le dire, planétaires, c'est par rapport à ces questions planétaires et par rapport à ces rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même qu'il faut penser ce qu'il faudrait peut-être mieux appeler, en reprenant et ce que vient d'évoquer Alain et ce que Nathalie disait d'entrain de jeu, les paradoxes démocratique. C'est-à-dire, la démocratie, en tout cas sous sa forme actuelle, est elle-même un formidable levier et en même temps, elle est insuffisante pour penser ces enjeux planétaires. Je prends un exemple qui montre en quoi le lien entre enjeux planétaires et rapport aux politiques, et donc rapport à ce que j'appellerais la qualité démocratique, qui est d'ailleurs un des enjeux du laboratoire démocratique que nous animons avec Dominique Picard, c'est un problème tel que le climat. Il y a peu de temps, j'ai participé à un débat absolument passionnant entre une climatologue et puis un certain nombre d'élus. L'équation était la suivante. Premier élément, si nous voulons éviter toutes les catastrophes annoncées par les rapports de type groupe international d'études sur le climat en 2050, a fortiori 2100, etc., c'est à court terme, en gros c'est dans les 10 ans qui viennent, qu'un certain nombre de réorientations extrêmement profondes doivent être engagées. Réorientations qui, bien entendu, sont contradictoires avec quantité d'intérêts, de conservatisme, de corporatisme de toute nature, et par conséquent, vu du point de vue d'un élu, l'oblige à prendre un certain nombre de décisions courageuses, voire impopulaires. Premier élément. Deuxième élément, quoi que nous fassions, et y compris quoi que nous fassions du mieux possible et du plus radical possible pour éviter ces risques à la moitié ou à la fin du siècle, le coût parti en termes d'inertie de nos deux siècles de productivisme fait que, de toute façon, nous n'aurons pas de résultats significatifs, en tout cas en termes d'amélioration, avant 2030. Donc, un politique classique qui raisonne en disant « je veux bien, à la rigueur, prendre un certain nombre de mesures impopulaires ou qui vont me mettre à dos un certain nombre d'intérêts catégoriels, mais à condition que ça me rapporte et que ça me rapporte à relativement court terme, parce que l'enjeu, c'est quand même ma réélection dans 4 ans, dans 5 ans ou dans 6 ans », eh bien, on est dans la contradiction absolue. Et donc, première hypothèse, là on est complètement dans les scénarios pessimistes qu'évoquait Alain, la nature même du phénomène démocratique, si on le réduit à ses formes quantitatives et où le cœur de la motivation d'un politique serait de la conquête de pouvoir, et comme le disait un jour Jacques Julliard, si l'élection est le cœur de la démocratie, sa réélection en est la plaie, eh bien autant dire que nous n'aurons pas les actes politiques qui sont à la hauteur de ce qui est nécessaire sur un enjeu aussi considérable que le climat. Et ce que je décris sur le climat, on peut le décrire de la même façon sur la biodiversité et sur ces autres grands défis planétaires qui sont les défis sociaux, les défis culturels, les défis géopolitiques. La seule façon de sortir par le haut de cette contradiction, c'est effectivement d'entrer à la fois par une forme de qualité démocratique qui vient travailler sur les paradoxes que Nathalie Dampnier abordait dans sa première intervention, mais qui vient travailler aussi sur le changement de système de motivation. Parce qu'on voit bien que dans les rapports au pouvoir, vous avez deux attitudes qui sont très différentes. La première attitude qui est « j'ai envie » d'avoir du pouvoir sur autrui, où là, le cœur de la motivation du pouvoir est quand même, pour l'essentiel, un goût de la domination. Et à ce moment-là, on voit bien que par rapport à ce type d'enjeu planétaire, ça ne peut plus fonctionner. Et puis, l'autre rapport au pouvoir, qui fait tout simplement référence à ce que, à la fois la grammaire et le sens étymologique signifient, c'est tout simplement le fait de dire, après tout, le verbe « pouvoir » est un verbe auxiliaire qui s'écrit en minuscule, qui n'a de sens qu'avec un complément, et par conséquent, c'est du pouvoir « de » plutôt que du pouvoir « sur » qui est important. Et à ce moment-là, ce pouvoir « de », c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par de la coopération, là où le pouvoir « sur », c'est un pouvoir de domination où le couple qui s'associe à la domination, c'est la peur. Parce que c'est soit la peur des dominés face aux dominants, soit la peur des dominants face aux autres concurrents dominants. Ce pouvoir qu'on a eu tellement de mal à conquérir, on a peur qu'on vienne vous le piquer. Et donc, seul le second système de motivation, qui est tout simplement fondé sur le fait que se retrouver, à un moment donné, en situation d'être catalyseur, d'être fédérateur d'énergie dans une aventure collective, ça c'est une rétribution et une forme de gratification qui peut être effectivement tout à fait passionnante. Et où là, il n'y a pas à attendre une réélection pour éprouver ce type de satisfaction-là. Alors si je mets en évidence à travers l'exemple du climat cette question, c'est pour montrer que dès lors que les enjeux sont ceux de la planète elle-même, le mode de rapport au pouvoir, le mode de rapport aux politiques et la question démocratique elle-même se trouvent transformés. Classiquement, sur ce qu'est le cœur de métier du politique, c'est-à-dire comment on fait avec la violence interhumaine et comment on fait à minima pour la limiter, si ce n'est pour l'éradiquer, les réponses qui ont été classiquement données étaient des réponses fondées sur un couplage entre un intérieur qu'on allait pacifier et civiliser, d'autant plus qu'il y avait un extérieur menaçant, que ce soit des tribus, des cités, des États, des empires, le phénomène était au fond toujours le même. C'est grâce aux barbares, aux étrangers et aux infidèles qu'on opérait l'opération pacification-civilisation. Seulement, là, manque de chance, sauf à titre fantasmatique, nous n'avons pas d'extraterrestres pour nous rendre le service d'être les nouveaux barbares, les nouveaux infidèles et les nouveaux étrangers. Et sauf à être complètement dans les régressions, et Dieu sait si les risques de régression nous les avons aujourd'hui, la seule façon de traiter la question à l'échelle planétaire, c'est de dire il y a bien un problème de barbarie, mais ce problème de barbarie n'est pas un problème de barbarie extérieure, c'est un problème de barbarie intérieure. L'humanité est certes menacée, y compris menacée de disparition précoce, enjeu de la fameuse sixième grande extinction dont nous parlent un certain nombre de naturalistes et de biologistes, mais elle est menacée de l'intérieur, par sa propre part d'inhumanité. À ce moment-là, la question de la civilité mondiale et derrière la question de la citoyenneté mondiale ne peut être simplement l'extension d'un modèle politique et singulièrement d'un modèle démocratique qui avait été fondé sur ce couple intérieur-extérieur, mais d'un saut qualitatif qui pose comme question première comment une communauté politique est-elle capable de traiter sa propre barbarie intérieure ? Et à ce moment-là, nous voyons bien que l'enjeu démocratique devient fondamental, mais il devient fondamental à condition que la démocratie ne soit pas définie exclusivement par sa dimension quantitative, la loi du nombre, mais par sa dimension qualitative, c'est-à-dire la capacité d'une collectivité à travailler sur elle-même, de même façon, par exemple, qu'un individu en quête de sagesse est amené à travailler sur lui-même, à ne pas considérer a priori que tous les problèmes viennent de l'extérieur, mais à considérer qu'il fait lui-même partie du problème. Si on prend la question dans cette dimension, alors nous sommes amenés à revisiter un certain nombre de grands enjeux. Par exemple, le débat sur les enjeux technologiques, qui est un débat obsédant dans nos sociétés, marquées en plus par la domination de l'économicisme. L'enjeu technologique, il oublie en permanence que dans les technés, pour reprendre là aussi le mot grec de techné, il n'y a pas que les technés qui sont liés à des objets ou à des machines. Il y a des technés qui sont liés à des sagesses, à des traditions spirituelles, c'est-à-dire à la capacité de travailler sur le cœur de la difficulté humaine. La seule chose dont nous sommes à peu près sûrs sur les nouvelles technologies, qu'elles soient de l'information, de la communication, du transport ou de tout autre domaine, c'est que dans 10 ou 20 ans, elles seront obsolètes. C'est à peu près la seule chose que nous sachons. Par contre, s'il y a encore une humanité dans 1000 ans ou 2000 ans, ce qui reste à démontrer parce que ça dépend justement de cette capacité à réussir ces rendez-vous critiques, il est très probable que Épictète, Sénèque, Bouddha, Jésus, Socrate, vous prenez en fonction de vos préférences les choix qui vous sont personnels, mais continueront à nous parler parce qu'ils interviennent sur le fond anthropologique radical qui est les questions de la vie, de la mort, de l'amour, du sens, de la reconnaissance, etc. Et donc, sur un enjeu qui est absolument fondamental, qui est celui du rapport entre les technés et le logos. Normalement, on ne devrait jamais parler de technologie au pluriel, mais d'une technologie comme une approche globale de la question des technés. Eh bien, il faudrait accorder au moins autant d'importance à ce qu'on pourrait appeler les TNTS que les NTIC. Traduction, les toujours neuves technologies de sagesse. Autre exemple, vous prenez un enjeu qui a été aussi évoqué par Alain Caillé à l'instant, qui est comment on fait pour construire une communauté mondiale qui ne renoue pas en même temps avec la peur, la part meurtrière des utopies. Je serais partiellement d'accord et partiellement en désaccord avec Alain sur sa dénégation radicale des utopies, et j'invite celles et ceux que ça intéresse dans le laboratoire des démocratiques, on va travailler notamment sur la construction de désaccords. On pourrait prendre l'utopie justement comme objet de construction de désaccords. Mais autant je partage complètement l'avis d'Alain, et il me semblait à travers ce que disait aussi Nathalie Dompnier dans sa première intervention qu'il y avait des éléments de même nature pour dire si l'utopie c'est justement un discours en surplomb qui prétend ordonner une société et de faire en sorte que les humains soient ordonnés par rapport à ces places qu'on leur assigne. Et si ça ne marche pas, on passe par la force. Et à ce moment-là, évidemment, l'utopie se fait meurtrière, totalitaire. En tout cas, elle est antidémocratique. Mais si l'utopie, c'est le déblocage de l'imaginaire, qui rejoint à ce moment-là un autre propos d'Alain, par exemple cet imaginaire qui a été complètement bloqué au cours des 30 dernières années par la représentation de l'économisme, à ce moment-là c'est beaucoup plus la définition de Théodore Monod comme étant l'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été essayé. L'utopie c'est, comme le disent les forums sociaux mondiaux chaque année, un autre monde possible, sans pour autant que ce monde possible soit formaté, assigné, préparé, programmé, avec le risque effectivement qu'il devienne ensuite utopie non démocratique. Mais si je prends cette question-là, appliquée au problème comment fait-on avec les grands mouvements civilisationnels auxquels l'humanité a avec lesquels l'humanité a travaillé, qui est en gros le cœur de la modernité occidentale, et comment on tire la modernité occidentale vers son meilleur pour éviter qu'elle ne continue à être tirée vers le pire. Et l'autre grande question, c'est comment fait-on avec... Deux minutes, ah ben alors... Je renvoie pour le débat sur comment fait-on avec le meilleur de la modernité sans le pire et avec le meilleur des sociétés de transition sans le pire. Et je prends mes deux dernières minutes pour dire si la question de la qualité démocratique est centrale. Non seulement ça veut dire que des questions qui étaient classiquement considérées comme des questions personnelles et privées, par exemple la question de la sagesse, deviennent à ce moment-là pleinement des questions politiques. Ça veut dire que les questions de méthode, au sens grec du terme « meta odos », le chemin qui nous mène au loin, deviennent pleinement des questions politiques, parce que la forme et le fond sont intimement mêlés. Dans un rendez-vous tel que Dialogue en Humanité, qui est un rendez-vous international, nous allons avoir la prochaine édition le 3, 4 et 5 juillet à Lyon, le choix de faire ça sous les arbres du parc de la Tête d'Or change considérablement la donne. Le fait de démarrer les dialogues par ce qu'on appelle des ateliers du sensible, c'est-à-dire faire expérimenter à tous les participants les trois grandes formes d'intelligence que sont l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit, et pas simplement la voie mentale de l'intelligence, comme c'est trop souvent le cas, ça change profondément la donne, et tant le contenu des débats que les rapports entre les acteurs du débat s'en trouvent modifiés. Donc cette qualité démocratique, c'est pour moi une utopie au sens positif du terme, c'est-à-dire au sens de ce qui n'a pas encore vraiment été essayé et que nous avons besoin d'expérimenter, d'où des approches telles que le laboratoire démocratique qui vous est proposé, et non pas du tout une qualité démocratique qui se définirait comme un monde préformaté qu'il s'agirait ensuite d'appliquer avec justement à ce moment-là soit un grand chef, soit un grand parti, etc., renouant avec toutes les contradictions qui ont été évoquées aussi bien par Alain que par Nathalie. Et donc cette question de la qualité démocratique, elle permet finalement à l'humanité de se poser une question absolument fondamentale, tout à la fois vertigineuse et passionnante, et qui est la suivante. Comment devenons-nous sujets positifs de notre propre histoire? D'une certaine façon, on peut dire qu'avec Hiroshima, l'humanité est devenue sujet négatif de sa propre histoire en entrant dans l'ère historique où elle avait la capacité de s'autodétruire. L'enjeu immense de ce qu'est la question démocratique à l'échelle planétaire, donc à terme de la citoyenneté terrienne, c'est comment devenons-nous cette fois des sujets positifs et non pas négatifs de notre propre histoire. Et à ce moment-là, la construction d'une qualité démocratique est un enjeu à la fois difficile et en même temps passionnant dans cette direction.
Bien, je vous remercie tous les trois pour ces exposés à la fois pleins d'exigences critiques et en même temps avec un certain nombre dans lesquels vous avez esquissé un certain nombre de pistes de réflexion sur la possibilité d'élaborer de nouvelles utopies pour la démocratie. Comme je le disais en introduction, l'idée de ce forum, c'est aussi de vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir. Donc je passe tout de suite le micro à la salle.
Merci. Denis Vernon, professeur de philosophie à l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Depuis 2005, se sont déroulés à Grenoble 6 forums ou débats dits démocratiques. Croyez-vous vraiment que l'urgence soit aujourd'hui de converser doctement dans le grand théâtre de l'AMC2 ? L'urgence n'est pas de réinventer la démocratie, mais de la défendre sur le terrain contre des menaces réelles. Vous avez rappelé, je vous en remercie, que dans nos universités, nous luttons depuis maintenant 3 mois pour sauver ce qu'il peut rester du fonctionnement démocratique dans notre communauté universitaire, fonctionnement gravement menacé par la loi prétendument de liberté et de responsabilité. Vous avez aussi rappelé, et je vous en remercie, que la même chose, le même problème gravissime se déroule dans les hôpitaux, dans la poste, dans les services publics. L'enjeu est aussi celui de la démocratie sociale dans nos entreprises, en particulier à Caterpillar. L'enjeu est aussi la démocratie politique et civique, fortement menacée, en particulier à Grenoble, par les développements insidieux et sournois des nanotechnologies. Alors je ne crois pas que l'urgence soit de disserter sur la démocratie à Grenoble. Les Grenoblois savent très bien pour de tas de raisons, ce qu'est la démocratie. Je terminerai rapidement en vous rappelant la définition que leur a proposée en 1961 Pierre Mendès-France, et qui, à mon avis, suffit comme utopie pour éclairer les luttes. Que le pouvoir soit délégué pendant 5 ans à des hommes non contrôlés, même s'ils ont été librement élus, ce n'est pas encore la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose qui doit se manifester de manière permanente par la persistance de la pression du peuple, par l'action des citoyens toujours vigilants et exigeants pour que leurs décisions soient respectées, et d'autre part, sur un autre plan, par les réformes institutionnelles qui doivent permettre à ces pressions de s'exercer, de se faire jour, où se prennent les décisions et là où s'exercent ces contrôles. Donc l'urgence ne me semble pas être, une fois de plus, à faire de débat, TGV débat, qui prétendent manifester la vitalité de la vie démocratique à Grenoble, mais de défendre les libertés qui sont menacées sur le terrain.
Je pense que tout le monde partage ce que vous dites ici, monsieur, mais l'objectif de cette rencontre, c'est que vous puissiez poser des questions et converser avec les gens qui sont avec nous. Donc, je vous demanderai de poser des questions et les plus brèves possibles, s'il vous plaît.
Question d'abord. Non, c'est bon. J'ai une question pour Nathalie Dompnier d'abord. Bon, une petite question pour Nathalie Dompnier, alors. Est-ce que...
Il y a une question en haut. Allez-y, monsieur, qui avait le micro.
Bon, ok, j'y vais. Alors,
Vous aurez la parole quand vous aurez le micro, monsieur. Quelqu'un a le micro déjà.
Vous avez l'air d'être assez contre le fait d'abord qu'il y ait des experts. Moi, j'aimerais vous demander si vous seriez pour un gouvernement d'experts tirés au sort parmi leur communauté épistémique ou j'en sais rien. Ensuite, je trouve ça un petit peu dommage que quand on parle de nouvelles utopies, on n'ait pas abordé la démocratie directe, qu'on n'ait pas abordé l'autogestion et qu'on
n'ait
pas...
Mais je ne vous ai pas donné la parole, monsieur. Monsieur du, en haut, à la parole. Laissez-le parler. Monsieur là-haut qui avait le micro.
Je recommence tout ? Alors, je commence. La première, vous m'avez entendu, Nathalie Dompnier ? Non ? Si vous seriez pour un gouvernement d'experts tirés au sort parmi leur communauté. Je dis bien tirés au sort. Ensuite, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas parlé, quand on parle d'utopie, qu'on n'ait pas parlé de démocratie directe. Vous avez dit démocratie locale, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et d'autogestion et d'économie sociale qui me paraît être un bon moyen de répondre à la fois aux problèmes d'environnement, aux problèmes qui se posent dans de nombreux points de vue, puisque le principe premier de l'économie sociale, c'est un homme, une voix et pas de profit. Donc voilà ce que vous en pensez.
Alors, je vais peut-être quand même rebondir sur ce qui a été dit lors de la première intervention. Oui, moi aussi, ça fait 3 mois que je suis sur le terrain dans mon université et ça peut paraître d'un certain point de vue un petit peu futile d'être ici. En même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut être sur le terrain et qu'on peut discuter aussi de ce que l'on fait sur le terrain. Et j'ai même eu le sentiment au cours des 3 mois de lutte qui viennent de s'écouler, où on a quasiment fait aucun cours, en tout cas tel qu'il se pratique d'habitude à Lyon 2, que justement on avait besoin aussi de parler et de dire ce que c'était que cette démocratie qu'on voulait et d'échanger aussi sur ces points-là. Donc, moi vraiment je ne vois pas l'incompatibilité qu'il y aurait entre cette action de terrain et une discussion collective sur la démocratie. Sur le gouvernement des experts, tirer au sort ou pas tirer au sort, je vois pas bien d'ailleurs ce que pourrait signifier un gouvernement d'experts tirés au sort. Ça veut dire que, de toute façon, on va tirer au sort parmi des experts. Et la difficulté, elle est bien là, elle est que dans ce type d'organisation politique, on fait appel à des individus, je dirais, S-qualité pour un certain nombre de compétences, de qualités, de caractéristiques en fonction de leur statut. Or, précisément, ce qui caractérise le démos de la démocratie, c'est que chacun, chaque citoyen est l'égal de son voisin, quel que soit le statut, quelle que soit la profession, quelle que soit la religion, etc. Donc, a priori, il me semble de toute façon que parler de gouvernement des experts, tiré au sort ou non, ce n'est pas compatible avec un gouvernement démocratique. Et puis, juste pour terminer peut-être rapidement sur la démocratie locale, démocratie directe, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on a mis sous l'appellation démocratie locale des choses extrêmement différentes. La démocratie directe, c'est vrai, je ne l'ai pas évoqué, mais cette quête d'immédiateté rejoint évidemment cet idéal d'une démocratie directe. Et on a beaucoup mis en avant aussi les possibilités qu'offraient les nouvelles technologies, justement, de mettre en place de nouveau. De réinstaurer une démocratie directe, mais ça me paraît assez illusoire. Mais on aura peut-être l'occasion de revenir dessus.
Monsieur, au deuxième rang, avait demandé la parole depuis longtemps.
Oui, merci. Serge Dufoulan, sociologue, ethnologue à l'Université Pierre Mendès France. Moi, j'ai trouvé que le débat que vous avez eu, enfin les exposés que vous avez eus étaient très riches. J'ai apprécié aussi l'intervention de mon collègue Vernon. Mais néanmoins, l'intervention de mon collègue Vernon, d'ailleurs, elle me permet de poser un certain nombre de questions et qui s'adressent à la fois peut-être à Alain Caillé et à Patrick Vivoret. Vous avez parlé d'espérance, vous avez parlé de foi, vous avez parlé de... En parlant, je pense à vous, M. Vivoret, vous avez parlé d'infini terrien, je veux dire, cette citoyenneté terrienne, presque un infini quantique, quelque part. Et je me suis demandé, en relisant le titre, tout simplement, si la démocratie elle-même n'était pas une utopie, et que de vouloir, donc, une sorte de deus ex machina, qu'il fallait, dans la fin, peut-être, penser, voire pas réaliser, mais à laquelle il fallait croire, pour, de manière utilitariste, économiciste sur le terrain, avoir des activités démocratiques. Avec peut-être de nouvelles formes de clercs, etc. C'est-à-dire à quel moment le mythe démocratique soit est influent dans un quotidien que Durkheim pensait peut-être en créant une paroisse des fidèles, des citoyens, ou est-ce que quelque part, on n'est pas en panne de démocratie, à mon sens, on est plutôt en panne de foi et d'espérance. Voilà, c'est la question que je voulais poser.
Oui, deux, trois mots pour faire écho, je crois qu'on se comprend bien, mais en même temps, il y aurait beaucoup d'explications de textes à faire. Et d'ailleurs, ça renvoie une partie de la discussion possible avec Patrick sur, je ne sais plus comment tu appelles, l'éclaircissement des dissensus.
La construction des désaccords.
La construction des désaccords, voilà. Mais bon, tout dépend évidemment de ce qu'on appelle utopie. Historiquement, les utopies étaient toujours des systèmes extraordinairement suturés, clos sur eux-mêmes, etc. Et je pense qu'il ne faut pas les confondre avec, vous l'avez très, très justement dit, avec les mythes. Je crois qu'il faut distinguer utopie et mythe. Alors, de fait, la démocratie, à certains égards, ne peut exister que comme mythe. Il y a un mythe de la démocratie. Aussitôt qu'on a pensé, je crois que ça renvoie au paradoxe que Nathalie Dantier avait observé, et qui sont très compliqués à cerner, c'est qu'aussitôt qu'on la croit réalisée, elle est morte. Si on pense que la démocratie existe, elle est finie. Elle est finie parce que si elle existe, il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Et c'est comme ça qu'on produit des démocraties sans démocrates. Et je crois qu'une des raisons des paradoxes que relèvent les sondages, c'est qu'effectivement les Français sont persuadés que nous sommes que le seul idéal possible, c'est l'idéal démocratique, premièrement. Deuxièmement, que nous sommes en démocratie. Mais puisque nous sommes en démocratie, ce n'est pas la peine de s'en faire, puisqu'elle existe. Donc ce n'est pas la peine de se mobiliser pour elle. Il y a des gens pour ça, des experts pour faire la démocratie à notre place. Voilà, donc la démocratie ne peut exister effectivement que comme mythe, d'une certaine façon, que comme horizon jamais accessible. Mais je sais, je voulais vous répondre à autre chose, mais j'ai oublié. Mais ça me reviendra. Excusez-moi.
L'une des définitions possibles de la démocratie, en tout cas une que j'aime bien, c'est la démocratie est l'art de transformer des ennemis en adversaires. C'est-à-dire de passer d'une situation de négation d'autrui, où y compris, si on en a les moyens, on irait jusqu'à la négation physique, pour rentrer dans une situation qui est certes une situation où la conflictualité a toute sa place, mais où cette conflictualité reconnaît non seulement la présence de l'autre, ne se contente pas de le tolérer, mais finalement commence à comprendre que cette altérité lui est nécessaire. Bon. Alors, si on prend le problème par ce bout-là, la démocratie, elle est au cœur de la difficulté humaine. C'est quand même là que les choses les plus essentielles se jouent. Entre la capacité de l'humanité, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, à faire fonctionner plutôt son logiciel égo-compétitif ou plutôt son logiciel altéro-coopératif, on voit bien que cette ambivalence, elle n'est pas simplement une ambivalence personnelle. C'est une ambivalence collective. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des paradoxes démocratiques, y compris dans la démocratie directe. Moi, j'ai été très actif, très participant au cœur des mouvements autogestionnaires. J'ai participé lors des dernières élections à toute une tentative de démocratie directe, utilisant y compris des moyens technologiques qui s'appelaient Voter Y. Et à la fois, c'était passionnant et en même temps, on vérifiait que le problème, il se situait tout autant au niveau des citoyens qu'au niveau des technocrates ou au niveau de la captation classique des élus. Pourquoi ? Parce que notre propre ambivalence fait que, y compris comme quand nous sommes dans un débat de ce type, ben, ça ne va pas de soi d'écouter l'autre, de ne pas faire sa conférence rentrée, de rentrer dans une situation d'interrogation mutuelle, etc. Donc cette question-là, Elle nous traverse. Où est l'espérance dans cette affaire ? L'espérance, pour moi, au sens le plus radical du terme, c'est de dire l'humanité a la possibilité de vivre cette incroyable aventure dans l'univers qui est l'aventure consciente, aussi brève soit-elle, d'une telle façon qu'elle soit pleinement vécue par des êtres humains qui soient debout. C'est-à-dire, moi personnellement, je me moque de savoir si l'espèce de mammifère consommant, pour parler comme Catherine Dolto, va survivre biologiquement. Le plus intéressant, et c'est là que les enjeux de ces rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même sont passionnants, c'est de savoir si ça va être l'occasion d'une qualité d'humanité supérieure. Si de la même façon que dans la grande histoire du rameau hominien, à un moment donné, contrairement à toute logique de rapport de force, là où c'était les plus petits qui nageaient pas, qui volaient pas, qui couraient moins vite, etc., et finalement, c'est dans ce rameau le plus vulnérable que s'effrayait l'émergence de la conscience, eh bien, ce qui était de l'ordre de l'hominisation hier, c'est aujourd'hui de l'ordre de l'humanisation aujourd'hui. Et ça, ça suppose effectivement à la fois d'avoir le principe de responsabilité, l'exigence de lucidité, y compris l'exigence de lucidité tragique d'un Hans Jonas, mais ça veut dire aussi que l'on est capable de produire du désir d'humanité. Et la transmission de ce désir d'humanité, c'est la clé des générations futures. Ce n'est pas l'organisation de la peur généralisée par rapport à la question de la survie, c'est effectivement, avons-nous envie ensemble, collectivement, de continuer l'aventure et de transmettre ce désir-là. Pour moi, l'espérance, elle est de ce côté-là.
Merci. Monsieur. Le micro arrive à vous.
Je vous remercie de nous avoir rappelé les fondements historiques de la démocratie. Et tous ici, nous sommes intéressés, nous avons été sensibilisés. Et depuis toujours, nous sommes concernés sur le plan démocratique par la participation ou non à un débat démocratique et ensuite par un vote. Cette façon de vivre la démocratie est extrêmement réductrice et nous laisse tout à fait sur notre faim. Et nous avons besoin, nous citoyens, nous avons besoin de vivre cette démocratie. Nous avons besoin d'avoir des outils, d'avoir un guide sur cette démocratie. Pour ça, il est important de rappeler quelques valeurs tout à fait essentielles et qui sont un peu noyées dans le discours tout à fait valable et particulièrement passionnant qu'on peut lire dans les publications ou qu'on nous rappelle encore aujourd'hui. La démocratie, permettez-moi de vous le rappeler et d'abuser de votre temps, c'est une démarche qui appartient à tout homme. Quand je dis tout homme, c'est tous les hommes de la planète, tous les hommes concernés par un territoire, vivant dans un territoire, soit qu'ils appartiennent directement à ce territoire parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils appartiennent à une nation, mais aussi, et vous l'avez évoqué dans vos tout à l'heure, parce qu'on a affaire aussi maintenant de plus en plus à des migrants qui sont aussi d'ailleurs pourvoyeurs de problèmes, voire d'épidémies, etc. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais la démocratie, elle doit, non seulement elle concerne tout le monde, mais en conséquence, elle doit rester accessible à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je dis aussi bien les gens riches que les gens pauvres, les gens intelligents que les gens se disant moins intelligents ou se croyant moins intelligents, les gens qui sont des adultes simplement et qui ont plus ou moins la conscience de leur... une certaine conscience de leur place dans la société ou sur leur territoire.
Pardonnez-moi de vous interrompre. Quelle est votre question, s'il vous plaît?
La question est de dire quels sont les outils qui sont proposés pour faire vivre cette démocratie. Personnellement, j'ai essayé d'avancer dans cette voie et je pense qu'il est important de rappeler que la démocratie concerne toutes les personnes, tous les individus et qu'elle ne doit pas laisser sur le carreau les gens qui se sentent en dehors, soit d'accord, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, soit pas assez riches. Et pour cela, il faut aussi rappeler que le débat démocratique doit être recentré sur des valeurs essentielles que vous avez rappelées tout au long de vos débats, c'est-à-dire des valeurs démocratiques et républicaines qui ont été rappelées à nombreuses occasions, comme la liberté, l'égalité, je ne dirais pas la fraternité, mais surtout la solidarité, car pour moi, la fraternité est une notion plutôt philosophique.
Merci. Je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, d'être le plus bref possible dans les questions que vous posez aux intervenants, parce qu'il nous reste juste quelques minutes.
Oui, ça sera assez rapide. Hein. Je voudrais poser une question, bien sûr, à tous les intervenants, mais particulièrement à Patrick Vivray. Nous sommes, depuis la Révolution française, en démocratie, avec des hauts et des bas, avec des problèmes, nous y sommes. Mais nous sommes également pris dans le mouvement, et Dieu sait si nous sommes tous d'accord, avec le progrès et puis l'avancement des techniques. Les techniques sont arrivées, tout ça. Or, maintenant, nous arrivons à un malaise tel que nous n'y pouvons plus nous retrouver dans... Et pourquoi? Parce que nous sommes insérés, enfermés dans un système de représentation qui fait que les pouvoirs sont confisqués et sont mis au service d'une équipe, d'un petit nombre de dominants, hein, qui se renouvellent à chaque fois. Hein, comme ça. Et le grand nombre, bien sûr, n'est plus capable d'avoir un poids démocratique. Or, je voulais simplement poser cette question... Si nous ne produisons pas un nouveau projet de société donnant justement une orientation, comme le précédent intervenant, nous aidant, nous guidant, hein, un nouveau projet de société qui redonnera le pouvoir au grand nombre et qui contrôlera le petit nombre qui dirige, on n'en sortira pas.
Moi, je suis évidemment d'accord sur ce que vous dites, mais j'ajoute que c'est insuffisant. Hein ? C'est-à-dire, évidemment, les luttes contre toutes les formes de domination, elles sont absolument nécessaires, mais elles doivent aussi travailler sur le fait que les ex-dominés peuvent parfaitement devenir
dominant, de la même façon que le fait d'avoir été victime ne constitue en aucune mesure un vaccin radical contre le fait de pouvoir devenir soi-même bourreau. Et donc, c'est là que la question de l'action émancipatrice, parce qu'au-delà de la question de la lutte contre la domination, c'est fondamentalement le problème de l'émancipation qui se trouve posé. Quelle est la principale cause d'échec des grands mouvements historiques émancipateurs? C'est d'avoir cru justement que le problème venait uniquement de l'extérieur, de n'avoir pas travaillé suffisamment sur eux-mêmes. Le communisme n'a pas du tout échoué par la force du capitalisme, il a échoué pour incapacité à traiter la question de la démesure, qui était par exemple la question de la démesure dans le rapport au pouvoir. Ce qui menace l'essentiel des mouvements alternatifs, des mouvements démocratiques, y compris les plus radicaux, la plupart du temps, ça n'est pas la force de leurs adversaires, c'est leur difficulté à faire ce travail sur eux-mêmes. Donc oui à toutes les formes de lutte contre la domination, oui à toutes les exigences d'émancipation, mais à condition que ces exigences, c'est ce que disait Gandhi, soyons le changement que nous proposons nous-mêmes. Et la grande affaire, par exemple au Forum social mondial de Belém, c'était très intéressant de voir qu'ont été pensées simultanément les deux grandes exigences, l'exigence des biens communs de l'humanité et de la lutte contre les formes de privatisation de ces biens communs, mais l'exigence parallèle du bien-vivre qui venait justement des peuples indigènes, qui savaient que s'il n'y avait pas en même temps travail des acteurs de l'émancipation sur eux-mêmes, eh bien les anciens dominés se préparent demain à être de nouveaux dominants.
Nous allons prendre une dernière question parce qu'il est 13h et que nous devons respecter...
Ma question s'adresse à Monsieur Caillé. À la fin de votre exposé, vous avez parlé de l'élimination qu'on avait pu donner aux individus, et vous avez parlé de la nécessité de réinstaurer des limites, notamment au niveau économique. Est-ce que pour vous, ça va au-delà de ça, et que ça, qu'il faudrait réinstaurer des limites par l'éducation, voire même par la morale?
Je suppose qu'on va conclure également. Bien. Oui, tout à fait. J'ai insisté sur la dimension économique parce qu'elle est la plus palpable. Mais au-delà, de toute façon, mon propos rejoint très clairement celui de Patrick Vivray. S'il n'y a pas instaurer des limites, c'est amorcer un travail de réflexivité qui permet de désamorcer en chacun son désir de domination et d'exploitation des autres. Mais ça commence par ces limites générales imposées à tous. À la fois la limite inférieure qui donne des possibilités à chacun, un revenu minimum, et un revenu maximum qui indique à tous le point qu'on ne doit pas dépasser. Mais je voulais, puisqu'on en est au moment de la conclusion, reprendre quelques questions qui ont été posées de manière très synthétique. Le problème de la démocratie, c'est également celui de ses modalités, celui de ses échelles. Il y a des questions qui ont été posées sur le statut de la démocratie participative. Je pense qu'un de nos problèmes, c'est de réinventer de nouvelles articulations entre les formes de démocratie représentative, qui pour nous étaient l'essentiel de la démocratie depuis 2 siècles, des formes de démocratie participative, voire directe. Personnellement, je ne suis pas hostile à des formes de démocratie directe. Et puis, troisièmement, des formes de démocratie délibérative, de démocratie d'opinion. Il y a tout un rééquilibrage à inventer. C'est d'ailleurs en partie le travail de Pierre Rosanvallon. Mais je pense que tout ça peut encore progresser, y compris institutionnellement. Et tout ça va dans le sens que ce que disait Pierre Rosanvallon tout à l'heure. Il nous faut non plus simplifier la démocratie, mais la complexifier. La complexifier en imaginant ce montage entre ces trois formes de démocratie. Mais l'autre problème, et qui vient encore compliquer les choses, et ça a été évoqué implicitement par la plupart des questions, c'est démocratie entre qui? Démocratie à quelle échelle? Comment est-ce qu'on forme une démocratie, une communauté démocratique? L'échelle de la démocratie moderne, ça a été l'État-nation, ce n'est plus une échelle suffisante. Nous sommes, en tant que sujet humain, partagés entre quatre échelles de vie. Nous sommes d'abord, disons dans l'ordre logique, premièrement des individus qui avons rapport à nous-mêmes. C'est une première dimension de notre subjectivité. Mais par ailleurs, nous sommes également des personnes qui sommes liées à nos proches, à nos amis, par tout un ensemble de relations, de dettes et de crédits, de dons et de contre-dons. Deuxième échelle de l'existence humaine. Ça peut être l'échelle locale, l'échelle du voisinage, l'échelle de la région, de la ville. Troisième échelle, l'échelle de la communauté politique ou spirituelle ou religieuse, la communauté de la citoyenneté. C'est cette échelle-là que l'État-nation mettait en forme. Et puis quatrième échelle, nous sommes des êtres humains génériques, comme disait Marx à la suite de Hegel, et nous avons des comptes à rendre à l'humanité dans son ensemble. Ben, voilà quatre échelles distinctes auxquelles peuvent se déployer également les formes de démocratie. Et tout problème, c'est de penser c'est la variété, la plasticité de ces échelles.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut conclure là-dessus, mais parce que c'est peut-être pas très optimiste non plus. Je trouve que là, on a pu entendre formuler un certain nombre de souhaits, de vœux, d'orientations pour la démocratie. Et c'est ce qui me gênait un petit peu dans l'intitulé de cette table ronde, c'est qu'on s'orientait nécessairement vers une position prescriptive ou normative, et se pose toujours la question de savoir comment on met en œuvre, comment on va vers ces propositions, comment on met en œuvre ces souhaits exprimés, en y croyant, sauf qu'il y a effectivement une difficulté qui est qu'on se trouve dans une société dont le mode est effectivement essentiellement égo-compétitif. Et comment on fait pour insérer dans une telle société un régime politique que l'on souhaite fonder sur d'autres bases et d'autres comportements? C'est bien la question ici de la nature de la démocratie, qui est effectivement pas seulement un régime, mais plus largement qui correspond à un mode d'organisation sociale. Et la difficulté, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'on a un décalage entre des aspirations pour le régime politique d'un côté et d'autre part ce qu'est la société dans laquelle il s'insère d'autre part.
Merci, merci à tous. Je voudrais juste, avant de vous laisser partir, signaler la parution du dernier livre d'Alain Caillé, dirigé par Alain Caillé et Roger Su, De gauche, point d'interrogation, chez Fayard, qui est en vente depuis quelques jours, et qui pose justement, en fait, à l'aune de la défaite de la gauche à l'élection présidentielle de 2007, la question de cette nécessité de réinventer un projet de gauche, et donc de nouvelles utopies également pour la gauche. C'est pour ça que je signale cette parution. Je vous remercie et je vous rappelle que les prochains débats commenceront à 14h30 tout à l'heure.